Famille de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1994, France Culture diffusait deux fictions réunies sous le titre « Tant de choses et pourtant rien », d'après deux textes écrits par Geneviève et Catherine, amies depuis leurs années de collège à Montargis. Deux textes, l'un de Geneviève, l'autre de Catherine, inspirés par le souvenir de leur ville dans les années 50 et 60, par ce qu'elles en avaient ressenti, perçu alors. Montargis, au temps de l'après-guerre, de la reconstruction d'un pays qui mettait son histoire sous le tapis. Montargis, au temps du silence coupable, avec tout près de là, ce qu'il restait des camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Tant de choses et pourtant rien, 42 rue Lazare Carnot, réalisé par Marguerite Gâteau sur un texte de Catherine de la Clergerie, auquel se mêle celui de Geneviève Hutin.
Tant de choses et pourtant rien. 42 rue Lazare Carnot, de Catherine de la Clergerie, lu par Marie-Christine Robert. Réalisation Marguerite Gâteau.
Chalette n'existe pas. Vienne, oui. Alger, Madrid, ces villes où nous sommes nés au hasard des pérégrinations de nos parents, nous confèrent d'emblée une identité remarquable. Nous sortent la tête hors de ce trou sans nom. Seule ma sœur est née à Chalette. À Chalette, pas à Montargis, où la clinique de l'hôpital avait mauvaise réputation. Ma mère accouchera donc chez elle, une nuit d'hiver, aidée par le docteur Aupetit, très adroit, le même qui a accouché toutes ces dames, accouru de Château-Renard où il était occupé à une autre délivrance et arrivé de justesse pour les minutes importantes. Et c'est comme ça que sur sa carte d'identité, aujourd'hui encore, bien qu'elle soit depuis longtemps installée en Amérique du Nord, elle est marquée « Née à Chalette-sur-Loing le 6 janvier 1950 ». Nous ne lui en parlons jamais. Elle ne le dit à personne. Chalette n'existe pas. Tellement plate, tellement rectiligne, nous marchons dessus, c'est tout. Au moins, il n'y a rien à visiter, se réjouit ma mère. Plus tard, je reconnaîtrai Chalette en traversant les petites villes de l'Ouest américain. La même impression d'être nulle part au monde, que l'impossible existe, pour rien.
Comment je voyais la ville ? Ça va être difficile, ça. Voyons voir. Ben, pour moi déjà, Montargis, c'était loin parce que j'allais à l'école à Montargis. Hein. Alors il y avait toute cette rue Lazare Carnot déjà à passer. Je suis allée à l'école toujours à Montargis, toute petite. Et il y avait cette grande rue Lazare Carnot qui n'en finissait pas. Puis après, on arrivait en ville. Voilà, alors là, on était en ville. Et c'est vrai que... C'était aussi l'occupation du dimanche où, quand on allait à Montargis, c'était une sortie. Ton avis, Montargis.
À ce moment-là, ben... oui, mais justement, c'était la ville Chalette, c'était plus la campagne. Et Montargis, quand on arrivait au bout de cette rue, là, on arrivait en ville. La ville, voilà. Pour nous, c'était quelque chose pour nous. Enfin, moi, je suis beaucoup plus vieille.
Oui, mais quand même, oui. C'est vrai que ça a été pendant des années, il y avait ce sentier du Longjard, alors c'est le sentier du Longjard, qui faisait la séparation. Mmh. On était à Chalette, on n'était pas montargois, hein, fallait pas confondre. Mmh. Et puis, bon, ben, on allait en ville.
La ville, c'était les jours de marché.
C'était
des fêtes, la fête foraine, la Madeleine.
La Madeleine,
oui, la foire exposition.
Une importance énorme. Oui. Ah oui, la foire exposition qui avait une autre, notre envergure que maintenant. C'était beaucoup plus important. Ça venait la Madeleine, la foire exposition, elle venait
jusqu'à cette rue Lazare-Carnot.
Jusqu'à la rue Lazare-Carnot. Ça se tenait sur toute l'avenue de Gaulle.
L'avenue de Gaulle, plus la place du Paty.
Plus la place du Paty. Alors ça, c'est vrai que c'était l'attraction de l'année. On attendait la Madeleine avec beaucoup d'impatience. Autrement, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on y faisait à Montargis.
Chalette, c'est rien. Et c'est moi.
Chalette, c'est rien. Et c'est moi. Pour cela, il faut remonter à l'image première. La plus ancienne, sans doute. Celle où je suis perchée sur la murette qui soutient les grilles du jardin de devant. Il fait froid, car je porte un manteau de fourrure blanche. Mes mains tiennent fermement les barreaux verts reliés par des volutes qui me semblent énormes. Chacun d'eux est surmonté d'une pique comme une lance d'écuyer. À travers ces barreaux qui menacent ainsi le ciel et l'érable, j'aperçois et je domine le monde, c'est-à-dire le trottoir en terre avec ses cailloux, le caniveau, la chaussée de la rue Lazare-Carnot, en face l'arrivée de la rue Anatole-France, une petite rue en pente qui semble vouloir nous ramener au plus vite chez nous, et postée au coin, la maison des Perronnet, sans jardin ni grille, directement posée sur le trottoir. Une maison de nains, à mon avis, une maison de retraités de la vie de ma mère. Une maison en tout cas d'où sort maintenant Monsieur Perronnet, en chaussettes de laine, par-dessus ses grosses chaussures, marchant précautionneusement pour ne pas glisser sur la chaussée gelée. Ce nain chauve au béret noir tout rond dépasse lentement la pompe à eau qui monte la garde sur son pied moussu et se dirige tel un gros escargot de l'autre côté de la rue où il disparaît de ma vue. Monsieur Perronnet est un des personnages du royaume qui s'offre à ma contemplation. C'est un monde parfait, car permanent. Il ne se dérobe point, il ne soulève pas de questions. Un monde chaque jour retrouvé dans la même disposition, mais qui n'impose pourtant aucune monotonie, car dans cette permanence existe la diversité des passages. Des chevaux, un ramasseur de peaux de lapin, une brouette de ferrailleur, la factrice, les cheminots qui disent « le bon Dieu vous le rendra », des romanichels qui vendent des aiguilles, des turcs, des retraités à vélo, quelques voitures. Une saison amène des fleurs rouges sur le pommier du Japon, une autre de la gelée blanche sur la route, du brouillard un matin, des inondations, une brise chaude, des abeilles, des feuilles tombées, et au-dessus, le ciel, bleu, nuageux, orageux, crépusculaire, ciel jaune de grêle ou étoilé. Ce monde permanent, on l'a vu, on le reverra encore. Ainsi s'installe la confiance dans le cœur de la petite fille perchée sur la murette, dans cette douce fourrure blanche qui m'entoure et qui porte mon nom, Hermine, un nom que je cache car on en profite pour m'appeler Vermine. Je suis dans un conte d'Andersen, entourée de mes frères transformables en cygnes blancs. Et les voisins de la rue Lazare-Carnot sont tous inclus dans les pages de ce livre.
Finalement, en Chalette, c'était vraiment un autre monde hein, par rapport à Montargis. C'était beaucoup plus, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus campagnard en apparence, c'était en même temps industriel.
Oui. Puis Chalette, c'est peut-être encore maintenant, c'était un petit peu la ville des retraités, quand même. Hein. Il devait y avoir beaucoup de gens qui travaillaient à Ginsot, quand même.
Ah oui, à ce moment, bien sûr, quand tu étais petite.
Hein, oui, parce que je me souviens quand même, quand les gens partaient travailler à Ginsot, j'étais petite à l'époque, on me disait, surtout, va pas sur la route, parce que les gens défilaient très vite, il y avait beaucoup de vélos.
C'était en vélo, oui, il y avait des routes.
Et prenaient la passerelle pour donc aller à Ginsot, et c'est vrai qu'ils se croisaient que ça allait très vite, et que... il fallait pas aller sur la route parce que c'était dangereux, quoi. C'était à l'époque où il y avait beaucoup de monde à Ginsot, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de monde maintenant. Puis il y a plus défilé de gens parce que les gens vont travailler en voiture. Et puis
Et puis parce que du bourg de Chalette, il y a beaucoup moins de personnes qui travaillent à une Hutton, évidemment. Parce que c'est les retraités maintenant, dans le bourg.
Et à part cette image très saillante des vélos comme ça qui défilent.
Ah, mais c'était impressionnant, les vélos qui défilaient. Mais, Jinsan, où est-ce que. Si on allait au quartier. On allait. Comment, au boulevard Kennedy, là-bas. Tu sais, quand il y avait. Ça, c'était pour les fêtes religieuses à ce moment-là. On allait. Moi, je me souviens être allée à l'inauguration de l'église des Cités. Ou quand il y avait des choses un petit peu comme ça là-bas, à l'église des Cités, alors on partait là aussi à pied. Alors c'était pas vraiment Montargis, c'était plus tout à fait Chalette, c'était pas vraiment Montargis, c'est un petit peu entre les deux, quoi. Alors on partait là-bas. Mais on vivait sur nous-mêmes, en fin de compte. Hein, on vivait sur nous-mêmes. Les dimanches, ils se passaient en famille. On allait se promener dans la Garenne. Le petit bois, quand on n'avait pas beaucoup de temps ou que, bon, les parents, ils ne voulaient pas trop se traîner, on allait dans la Garenne. Et puis dans les dimanches où ça allait mieux, on allait au stade. On allait faire une promenade en forêt, à pied toujours. Toujours à pied. C'était loin. Maintenant, je ne sais pas. Ça nous fera
mal. C'est tout. Hein, la vie, c'était très, très calme.
Ah oui?
Le plus âgé de tous est notre voisin de droite, Monsieur Roche. J'ai toujours cru que c'était lui dont on avait dessiné la tête sur les billets de 500 francs, 5 francs de l'époque. Même barbe blanche rectangulaire, même visage que le Victor Hugo sur fond bleu qu'on me donnait pour aller faire les commissions. Quand il ne ramasse pas le crottin sur la chaussée, Monsieur Roche tire sa chaise pliante sur le trottoir, à la porte de son garage, et s'installe devant son chevalet. Aujourd'hui, il peint la salle des fêtes de Montargis. Je regarde briller toutes ces petites fenêtres autour du bâtiment blanc. « Il n'en manque pas une seule, je les ai comptées !» me dit-il en reprenant une pastille de Luchon dans sa boîte en fer. Il crachote souvent entre deux phrases « Roche, Roche, Roche !» comme son nom. C'est Mathusalem, mais il parle. Il dit « 545 DN 45, c'est facile à retenir, le numéro de ta maman sur sa deux chevaux. » Tu vois, 45 pour le Loiret, et 545, c'est encore 45, et 45 à l'envers. Tu comprends? 3 fois le Loiret. Et il se remet à peindre la salle des fêtes. Il peint lentement, minutieusement. Il se recule un peu et me regarde. Tu vois, un tableau comme ça, je pourrais en tirer une bonne somme. Je pourrais peut-être le vendre 80 000 francs. 800 francs de l'époque. Même s'il n'y avait pas à présent marqué « Salle des fêtes » en lettres d'or sur la façade, je reconnaîtrais tout de suite la place du Paty en face de la sous-préfecture et la salle des fêtes où j'ai déjà dansé avec une coiffe d'Alsacienne. Mais pourquoi voudrait-il le vendre? N'est-il pas déjà sur tous les billets de banque? Quand il mourra, Madame Roche fera une vente aux enchères de ses affaires sur le trottoir. On posa alors une vieille planche sur des tréteaux. Il y eut beaucoup de monde. J'étais perché sur la murette, sous l'érable, et je voyais de dos Monsieur Baron, qu'on appelait tout simplement Baron, le commissaire-priseur de Montargis, celui qui habite l'écluse de la Rainette, présentait en l'air chaque objet et abatte presque aussitôt son marteau sur la table. Les gens riaient à ses astuces. Ou alors ils faisaient semblant de se fâcher. « Allons, pas d'amateur ?» Ma mère acheta pour moi un franc, un livre relié de carton rose marbré. Les contes de Perrault, tous illustrés de gravures protégées par des pages de papier transparent. À la fin furent vendus les tableaux, 1 franc, 2 francs. Madame Roche, qui était gentille mais qui n'aimait pas son mari, brûla les tableaux qui ne s'étaient pas vendus, quitta la rue Lazare Carnot et finit petite vieille à l'hôpital de Montargis. rue Lazare Carnot. Ce nom était une plaisanterie. Que quelqu'un puisse se prénommer Lazare, un mort qui marche, un homme de la Bible, du fond des âges, qu'il soit ressuscité dans le livre, passe encore, mais qu'il soit ressuscité justement dans ma rue. Et Carnot sonnait aussi borné que Chalette, Pecnot comme Gâtinais, surtout si vous prononciez Cholette et Gâtinais, cet accent du Gâtinais qui roule les airs, ou au contraire les oublie en fin de mot. Tu mets bas du sucre, toi, Sutagoff. Le 42 était un chiffre plouc, mais c'était ma maison, et je l'aimais. Tout me convenait, cette conjugaison d'une rue véritable, même si elle faisait 2 kilomètres de long en ligne droite, et d'un pré derrière la maison aussi grand que la ville, dont j'apercevais de l'autre côté la pointe fine de son clocher, l'église de la Madeleine, et la découpe modèle réduite de son château sur la colline de la Sirène. Dans ce pré passait une rivière, le Loing, et tout au fond le canal de Briard, 2 lignes liquides, parallèles, qui nous séparaient définitivement de Montargis. Chalette était donc cet endroit amusant où on pouvait habiter près du Loing. Cette constatation m'enchantait. Certains pouvaient aussi habiter loin du pré, d'autres loin du Loing et nous près du pré, ou comme Sabine Baffret, près du Loing et loin du pré, ce qui est un comble. Je citais ces combinaisons à table et on me disait que je lisais trop l'Almanach Vermeau, ce recueil annuel de blagues idiotes qui traînait à la cave en attendant de les porter aux petites vieilles de l'hospice. Bref, Chalette n'était rien, ce qui nous laissait toute latitude pour être ce qu'on voulait.
Oui, le pré que l'on voit de chez Catherine, qu'on voyait de chez Catherine, de fait, c'est un endroit où moi je suis allée une seule fois, un petit peu honteuse d'ailleurs, parce qu'il a fallu que je demande aux parents de venir récupérer la barque. On n'avait pas le droit de partir très loin avec la barque. Or, un jour, avec une de mes amies, on avait décidé de partir en grande aventure, on avait décidé d'aller jusqu'à Moret. Alors, on avait la barque, les 2 rames, et puis on a porté avec nous des petits gâteaux, des pommes, et même 3 cigarettes, effectivement 3, puisque c'était le moment où on commençait à faire ces choses. Il y a eu un grand remous, la barque s'est retournée, et on s'est retrouvé dans l'eau, et devant nous est partie la barque, les 2 rames l'une derrière l'autre, les pommes les unes derrière les autres, les petits gâteaux, tous en ligne, et les 3 cigarettes bout à bout, qui partaient devant nous sur 10 mètres de long. Et c'était tout à fait surréaliste de voir cette grande ligne sinuante et la barque qui partait très très loin avec toutes ces choses derrière les autres. C'était un souvenir tout à fait frappant.
Est-ce que tu as déjà réalisé que tu habitais près du Loing?
Ah, c'était tout à fait essentiel. Dans la mesure où il y a 2 pièces de la maison qui donnaient directement sur l'eau. Et les jeux de gosses consistaient à pêcher directement de la fenêtre de la cuisine. Alors moi, je me dévouais pour accrocher les hameçons et nettoyer les poissons. Et puis, avec mon frère et ma sœur, il y en a un qui pêchait et l'autre qui faisait cuire. Et on mangeait les poissons en les pêchant au fur et à mesure. Ça, c'était des jeux tout à fait sympathiques.
Et quelle était l'autre pièce qui donnait?
C'est la chambre de mes parents. Il y a un petit balcon, mais là, c'était le balcon interdit. Puis au-dessus, il y avait une chambre d'amis qui était un lieu de refuge, de rêve, sous les toits, avec une toute petite fenêtre. Il fallait se pencher pour regarder le pont au loin, enfin, le pont qui était plus loin, et le loin qu'on voyait de haut. Et là, de la petite chambre, on voyait le fond de l'eau, ce qui était tout à fait différent.
T'arrivais à voir le fond de l'eau?
Ah oui, du 2e étage, le fond de l'eau, qui était... Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé, parce que je m'y promenais beaucoup dans cette eau. Sauf quand il faisait très froid, mais on trouvait toujours le moyen de tomber dedans et de faire tomber des choses qu'il fallait aller chercher, parce que c'était vraiment un jeu très gai que d'aller marcher dans la gadoue et dans les algues et dans les saletés pour ramasser ce qu'on faisait plus ou moins volontairement tomber... de la pièce, enfin de la cuisine, qui est la pièce maîtresse finalement de la maison.
Donc on avait pied?
On avait pied la plupart du temps, sauf au printemps où il est arrivé que l'eau rentre dans la maison. C'est arrivé 2 fois, enfin en tout cas 2 fois,
Et le souvenir le plus très étonnant pour moi, c'est qu'on guettait le moment où l'eau passerait par-dessus la porte, la fenêtre de la cuisine. Pas du tout. L'eau est arrivée par le sol. Et ça a été une nuit tout à fait amusante, j'ose le dire. Car on a déménagé tout le rez-de-chaussée de la maison. Et on a tout monté. On était que les gosses avec maman. Et on a déménagé toute la maison. Et ensuite, on est venu nous ravitailler avec une barque. Il nous a porté du jambon et du pain avec une barque. On n'est pas allé à l'école pendant 2 jours. Et avec de l'eau chaude qui restait dans la salle de bain qui était au premier étage. Et on faisait du thé avec l'eau bouillante qui sortait de la salle de bain. Enfin, c'était très gai, quoi. Tout le monde était consterné. Ils ne comprenaient pas pourquoi on riait quand ils arrivaient avec leur pain et leur truc. Enfin, les pompiers qui arrivaient avec des airs complètement abattus. Et chez nous, c'était un peu la fête. Il y avait des petits poissons qui couraient dans la salle à manger. Bon. Après, les parents ont moins apprécié quand il a fallu tout nettoyer, mais ça...
Tu veux dire que l'avenue Paul Bodin, elle était aussi sous l'eau ?
Le bas de l'avenue Paul Bodin était sous l'eau. Tu sais, il y avait un... L'entrée de la maison était à côté d'un restaurant qui s'appelait les Matous, qui a été, je ne sais pourquoi, enfin, ou si je devine, le nom en a été changé, ça s'est appelé la Solne Normande. Et le fait, le Matou, c'était un lieu du temps d'avant, enfin du fond des temps. Le Matou était le gué, le passage de gué, qui donc passait entre l'avenue, enfin, avant que le pont n'existe avec ce cinéma horrible. Et de l'autre côté, il y avait le lavoir. Et quand on allait sur le lavoir, on pêchait des poissons chats, qui étaient immangeables. Enfin, on pêchait beaucoup.
Dans notre classe, Madame Guyon, cheveux frisottés autour des oreilles, s'adresse à Sabine Baffray du haut de l'estrade. « Vous boitez parce que vous avez eu la polio, mais vous verrez, quand vous aurez 20 ans, normalement, ça ne se verra plus du tout. » Silence consterné. La classe de 7e retient son souffle en fixant la grosse natte de la nouvelle. Elle, visage fermé, impassible, une statue de bronze. Je la comprends. Lui parler de ses 20 ans. Il n'y a que des professeurs pour manquer de tact à ce point-là. Avoir un jour 20 ans. Non. Vaut mieux pas y penser. On peut pas vous forcer à penser à ces choses-là. Jamais.
J'ai eu la polio à 1 an. Juste à 1 an. Le jour de mes 1 an. Et... De fait, je m'en suis aperçue en arrivant à Montargis. Dans la cour d'école, en classe de 7e. Et c'est là où j'ai pris conscience qu'effectivement, je courais pas assez vite ou aussi vite que les petits copains et que je boitais, puisque avant, je m'en étais pas du tout aperçu. L'année de 7e n'a pas été une très bonne année, il faut le dire. Mais 7e, 6e, ça a été très brusque, très brutal. Enfin, en plus de la perte de ma campagne du Morvan. Dieu merci, effectivement, dans ce cas-là, il y avait ma petite fenêtre tout là-haut, 2e étage, sur le loin. Où on pouvait s'épancher et retrouver un semblant d'espace et de solitude.
Quand une composition trop difficile se profile à l'horizon, j'ai recours à la maladie diplomatique. Je suis pâle de nature, et ma mère fait semblant d'y croire, comme ce matin, où après avoir épuisé les joies de l'aspirine et du tilleul, le gros du danger étant passé, je commence à m'ennuyer ferme. Je me lève. Qu'est-ce que tu fais debout ? Tu n'es pas vraiment malade ? Si, si ! Je me recouche, je cherche à me sentir mal à nouveau, quand on entend la voiture de mon père au fond du jardin. Je saute sur mes pieds, nous courons à la fenêtre. Que se passe-t-il ? Mon père, cet homme si calme, la régularité même, à 8 heures il part pour l'usine, à 6 heures il rentre,
Il quitte ses habits gris de sous-directeur et réapparaît en short, chemisette et sandales de jardinier. Ou bien il fait un feu, ou alors il va à son établi jusqu'au dîner. Il ne dit rien, et le lendemain, pareil, il prend sa voiture et disparaît jusqu'au soir. Nous écarquillons les yeux. Mon père est tout nu dans l'allée, ou presque, à 10 heures du matin. Il avance tranquillement sans nous voir, quelques feuilles mortes collées sur sa peau, la tête légèrement penchée comme s'il réfléchissait encore en rentrant du travail. Il a plongé dans le canal. Ma mère lui donne une serviette. En débouchant à l'endroit où ça fait un coude avant d'arriver à l'usine Hutchinson, ah oui, je vois, je n'y suis pas allée bien souvent, mais m'apparaît aussitôt la platitude de steppe de Vézine, bout du monde, et Hutchinson, cette bâtisse surgie du 19e siècle, une antre noire et rouge, aux fenêtres grillagées dans des murs maculés par le noir de fumée, aux cheminées de briques en forme de cône, avec sa population de vélos qui s'anime au hurlement des sirènes. Et sa rue de maisons préfabriquées où des jeunes gens, goguenards sortis d'une photo de Harlem, laissent pendre leurs jambes par les fenêtres du premier étage. Là donc, il y avait une voiture qui s'enfonçait lentement dans l'eau, au beau milieu du canal, avec un homme au volant, l'air hébété. Il commençait à y avoir du monde. Mon père est bon nageur. Voyant que l'homme ne bougeait pas malgré toutes les explications qu'on lui criait de la berge, il s'est déshabillé et il l'a tiré de là. Les pompiers le féliciteront. Ils lui donneront peut-être une médaille. Le rescapé n'est pas content, il voulait se suicider. C'est enthousiasmant, aussi vrai et palpitant que ce que je peux lire dans la série d'époque. J'ai bien fait de manquer l'école.
Eh bien moi, je suis rentrée, je suis née en 1921 et je suis rentrée à Hutchinson en 1934. Cela veut donc dire que j'avais 13 ans. J'ai eu 13 ans le 5 mars et je suis rentrée le 1er juin. Bon, alors, mon père travaillait chez le chef comptable d'Hutchinson, comme jardinier. J'ai donc eu la faveur d'être embauchée coursière dans les bureaux au lieu d'être dans les ateliers.
Oui, donc, c'était moins dur.
Pourquoi c'est pas pareil. C'est pas pareil, et surtout... En même temps que je faisais les courses d'un étage à l'autre, parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur à ce moment-là, évidemment, je portais des papiers du troisième au rez-de-chaussée, où il n'y avait pas des courses toute la journée quand même. Donc on m'a appris la dactylo. On était apprenti en même temps. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à Hutchinson. J'ai donc appris la machine à écrire. Et après, je suis devenue facturière. Toute la journée, je faisais des factures à la machine. Puis après, sans me jeter des gants, j'étais sans doute assez... Enfin, ça, c'est pas fait. J'ai appris la machine à calculer. Et j'ai travaillé au service de paye. Et j'ai continué comme ça. J'étais donc au service comptabilité. Il y avait un côté les facturières et de l'autre côté la comptabilité. Et j'ai appris à machine à calculer. Ça me plaisait énormément. Et j'ai continué à travailler là. Jusqu'au jour où il y a eu le système Taylor et où on a supprimé. Il y avait 3 étages de bureaux et on a supprimé 1 étage. Ce système a permis de supprimer beaucoup de personnel. Donc à ce moment-là, on a emmené les plus jeunes comme dans les ateliers. On les a placés dans les ateliers. Et moi, j'étais placée au matelas de camping. Donc pendant 2 mois, j'ai fait des matelas de camping. Et un jour, au service de paye de l'atelier chaussures, il manquait une personne. Comme je connaissais la machine à calculer, on est venu me chercher. On m'a fait faire un essai, ça a marché. Je suis rentrée donc, au service de paye de la chaussure, où je suis restée jusqu'à temps que je quitte une petite zone, c'est-à-dire après la naissance de mon premier enfant.
Qu'est-ce qu'on fabriquait, Hutchinson?
On fabriquait des chaussures, des tennis, des bottes pas l'atelier où j'étais, mais enfin, le bureau était dans l'atelier. Des canevas, on appelait ça.
C'était quoi ?
Des canevas, c'est ce qu'aujourd'hui les jeunes appellent, c'est-à-dire des canevas, des baskets. C'est un peu le tennis, mais avec une semelle moins épaisse, c'est ça le canevas. Il y avait plusieurs sortes de chaussures, quoi. Il y avait aussi des snow boots, c'est-à-dire c'était des petites bottes courtes. Là. Comme il y avait des grandes bottes, des bottes cuissardes, on faisait tout ce qui a rapport à la chaussure en caoutchouc, quoi. Ou alors le tennis, c'était la tige en tissu et les semelles en caoutchouc aussi. Et il y avait beaucoup d'autres ateliers. Il y avait l'atelier les matelas de camping, il y avait les manteaux, on faisait des imperméables. Il y avait l'atelier vélo, où on faisait les pneus, les chambres à air. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme atelier ? La préparation, où là, ils préparaient le caoutchouc, je ne sais pas comment ça se faisait. Ça sentait très mauvais, c'est tout ce que je me souviens.
Je me souviens, quand on passait devant Hutchinson, dans le virage, au vieux rang, hein, on voyait le caoutchouc, ça faisait une énorme masse là qui tournait, ça devait tourner sans doute avec des machines ou je ne sais quoi, c'était une infection.
Des autoclaves,
ah oui. Et on voyait une grosse masse là de caoutchouc et il y avait des gens qui travaillaient là, qui devaient travailler par des températures. Ah oui, je ne sais pas à quel degré ils pouvaient travailler, mais on voyait leurs fenêtres étaient un peu entrouvertes et on les voyait là travailler. Ah oui, ça devait être difficile, hein. Les ateliers, c'est moi, Hutchinson, qui était dur. Hein.
Oui, on nous disait 40 degrés. Je ne sais pas si on exagérait ou pas.
Je ne crois pas. Non.
Oui, Hutchinson, c'est quand même important pour la région, parce que ça faisait travailler combien de personnes ?
Oh, il y a eu, je crois, autant 1500, je crois qu'il y a eu 4000 même.
Ah oui, à une époque, oui. Même si maintenant, il n'y a plus...
Maintenant, ils sont 1500, je crois.
Ouais. Les gens venaient travailler de loin, Hutchinson, venaient travailler à pied. Moi, je me rappelle, maman qui disait qu'il y avait des Polonais qui venaient, je ne sais pas où, je ne sais pas d'où, c'est rien, qui venaient par tous les temps, qui venaient à pied, très loin, apparemment.
Ça, c'est vrai qu'il y avait énormément de nationalités là-bas.
C'est Hutchinson qui les avait fait venir, d'ailleurs,
certainement. Et je pense qu'il faut que je parle du vieux rang, justement. Le vieux rang, c'était un groupe de maisons qui était juste en face de l'usine. Quand on avait traversé l'écluse, sur la droite, maintenant, il y a un atelier, mais avant, c'était ce qu'on appelait le vieux rang. C'est-à-dire que c'était des... Il y avait un café et des maisons d'habitation. Alors, c'était très, très noir, très, très vieux.
C'était une maison en bois ?
Oh non.
Non, en torchis. Non, j'avais un souvenir
de maison
en bois.
En torchis, oui. Et c'était... Quand on traversait ce murant, c'était frappant. On avait l'impression... Pourtant, nous, on n'était pas riches. On avait l'impression que les gens qui habitaient là, c'était vraiment les gens très, très, très pauvres, quoi. Et... C'était très noir. Oui.
Isabelle Dupont est nouvelle. J'aime les nouvelles, elles viennent d'ailleurs. Elles restent quelques années et puis elles s'en vont. Elles ne connaissent pas Montargis et ne sont là que de passage. Elles ont un genre différent des pensionnaires, par exemple, qui sont toutes regroupées dans les rangs du milieu, au centre de la classe. Rien ne les différencie sinon une provenance. Corqueil-Roi, Tréguer, Soupe-sur-Loin, Ladon, Ouzouère, Ferrières, Nogent-sur-Vernisson. Filles grises, ectoplasmes en blouse qui ne se lient d'amitié qu'entre elles en parlant bas. Rien de notable ne peut jamais provenir d'une pensionnaire, sauf ces lieux lointains d'où elles viennent. Sully, Loris, Panne, La Celle-sur-le-Biais, Saint-Firmin-des-Vignes, Château-Landon, Château-Renard, Nargis, qui fait penser à Montargis en plus petit, comme les étrangers qui disent Montargis, Saint-Maurice-sur-Fessard, Beaune-la-Rolande. Elles sont le Gâtinais, le Loiret, ces noms désolés qu'on traverse en train en pensant à autre chose. Au sortir du Chinchon, nous descendons la rue Dorée, une tortueuse artère, un boyau plutôt, fréquentée dans les deux sens par tout ce que la ville compte de population, bordée de magasins authentiquement montargois, c'est-à-dire moyenâgeux ou au mieux vieillots. La rue Dorée qui débute boulevard des Bonnes Manières par chez Douceur. Un minuscule magasin de bonbons de luxe auquel on accède par un tout petit pont enjambant le ruisseau du Vernisson, montrant en vitrine ses crottes du chien de Montargis en confiserie et qui finit au magasin Ouf, confection pour dames et robe de mariée sur deux étages. Il ne vous viendrait pas l'idée d'entrer là-dedans, ça semble juste posé là de toute éternité pour vous faire savoir que vous êtes arrivé sur la place Mirabeau, à côté du magasin des Pralines Mazet, qui fait l'orgueil des Montargois, une façade de conte gothique, encore à l'enseigne du duc de Pralins, du nom de leur inventeur. Or, un jour, eut lieu l'événement des magasins modernes, juste à côté de la quincaillerie, là où ma mère disait « J'espère ne jamais me réincarner en quincaillier. Passer ces journées en blouse grise au milieu des boulons et de tous ces bidules en ferraille, là où ça respire l'ennui. » Les magmodes, avec des portes vitrées jusqu'au trottoir, et à l'intérieur une lumière tellement intense qu'elle en est presque bleue. Ici, pas de vendeuse aimable qui se précipite vers vous comme une araignée. Et au centre, merveille, un escalier mécanique d'une dizaine de marches avec un bras en caoutchouc qui vous emmène sans effort vers le premier étage où il n'y a rien de spécialement intéressant. Non, ce qui fait rêver, ce sont les rayons de l'entrée. J'y entraîne Isabelle Dupont. Des monceaux de trésors dorés et argentés présentés sur des barres noires ou en vrac directement accessibles dans des bacs bordés de vitres. Des kilogrammes de colliers, bracelets, bagues, broches et boucles d'oreilles. Tu vas voir, il y a plein de perles égarées qui ont roulé sous les rayons. Je me baisse. Justement, j'en vois deux. Une perle fine et une autre irisée, transparente, taillée en facettes. Je convie Isabelle à se baisser elle aussi, mais elle ne veut pas. C'est à tout le monde puisque c'est sous les rayons. Je peux pas, tu comprends, si ça se savait. Si ça se savait. Tu comprends, mon père. Je crois pas qu'il n'apprécierait pas. Rien à faire. Elle s'éloigne en regardant ailleurs pendant que je me baisse à nouveau. J'ai un peu de mal, mais je l'ai. Une belle perle irisée. Une merveille. Elle ne veut pas la regarder, même quand nous sommes à nouveau dans la rue. Nous entrons dans une boulangerie. Deux commères nous dévisagent de côté. La première bat à l'autre. C'est la fille du sous-préfet, Bellec. La deuxième, même ton. C'est une fille de divorcée, sa mère. Isabelle Dupont regarde haut, par-dessus les pains et les baguettes plantées comme des épées sur le support en ferronnerie. Elle rougit sous sa frange, comme la fois où elle s'est levée en classe pour répondre droite, digne, prête à tout. Dupont-Bellec ?
Oui, madame.
Les volcans d'Auvergne ne sont qu'endormis.
C'est exact.
La classe s'esclaffe. Quand elle rougit, même ses cuisses deviennent rouges. Je l'ai remarqué à la gymnastique.
C'est la plus jolie fille du Chinchon.
Rien, ni les vieux jardins reflétés par mes yeux, ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trompe. Stéphane Mallarmé. Vite, je profitais d'un moment, d'une commission. Tous les prétextes étaient bons pour partir, aller me promener en ville. Je filais en vélo, j'arrivais, je débouchais. Place de la République, par une ruelle encaissée, un goulot, flairant encore une odeur de lavoir, sombre, et je recevais brusquement la lumière. Les femmes, habillées de noir, vendaient leurs œufs, leurs fromages, sous leurs visages usés et rusés avec des fichus. À droite, il y avait une mercerie antique, petite, avec un toit pointu comme dans les contes, qui avait réussi à s'échapper de son époque. Un restaurant, le Cocher de Fiacre, avec un gros enfant buveur de bière, en guise de publicité, et j'entendais presque le sabot du cheval.
Il y avait chez Suard, linge de maison, dont le fils ne voulait pas croire que les policiers fussent tous mauvais, quand le prof d'espagnol nous lisait le poème de la Guardia Civile de Lorca, et qui est mort à 20 ans dans un exercice. Il y avait des bars, où je n'allais jamais, mais j'allais rue Doré, et reluquer en contrebas. Ces cafés où il fallait descendre étaient à un plus vieux niveau. Là-dessous, il y avait de l'eau, que l'on ne voyait pas, de la lumière dessous la rue, sous les pilotis. La ville tenait par un miracle, que l'on vivait tous les jours, sans le savoir, et après plus encore, lorsqu'on le savait, mais j'aimais mieux ne pas trop y penser. Il y avait des latrines dans les cours, des portes usées caressées par le soleil, et comme un fragment de la nature au fond. Il y avait la poste dans une rue, rassurante, mais massive comme une prison. Il y avait des trous pour mettre les vélos, place de la République, et je me sentais toujours un peu coupable, car le marché était fini, mon vélo était seul au soleil. Je m'engageais alors encore plus profondément entre deux rues sur l'eau de la petite Venise, déserte absolument. Les gens rentraient chez eux à midi donnaient la sensation de ville morte. Bruit de fourchettes, de verres qui ne m'enlevaient pas la sensation d'entrer dans un autre monde. Au contraire, car les toits en ardoise, le profil invraisemblable des vieux entrepôts, tenaient du château et de l'usine, des usines gothiques en quelque sorte, terriblement médiévales. Et les balcons en fer forgé de ces maisons sur l'eau me semblaient trop étroits. N'y tenaient que des pots de fleurs, des araignées, des fantômes plats. Je regardais ce labyrinthe aménagé pour vivre, dédoublé sur les eaux, par les passerelles, les voies d'accès, les ouvertures sur les embarcadères, où les anciens lavoirs de peau qui ne servaient plus, ou des barques fleuries du pire kitsch alsacien viendraient un jour me faire ressentir un peu plus leur dégradation. Mais à l'époque, cette Venise, et que je croyais telle, me semblait quelque part plus belle d'être laissée telle qu'elle, et même à l'abandon.
Tu es la première personne qui m'a révélé qu'une partie de Montargis était construite sur des pilotis qu'on ne voyait pas. Mmh. Et ça m'a procuré une impression très bizarre de marcher sur une eau située en dessous juste du niveau de la rue. Est-ce que tu te souviens des pilotis ?
Alors, je crois que la rue Doré, effectivement, qui est la rue principale, nord-sud, la rue très importante, et bâti effectivement sur pilotis. Et avant qu'on ne se mette en tête de rénover toute chose, quand on prenait les petites rues perpendiculaires à la rue Doré, il y avait un ou deux endroits que je considérais comme mes endroits, que j'avais trouvé vraiment parce que ma curiosité me poussait à ouvrir et à pousser les portes, qui étaient en très mauvais état, et on débouchait en abrupt sur des bras d'eau qui sortaient de la rue Doré, et qui était là. Et il y avait notamment un escalier absolument extraordinaire, tout en bois, qui était une chose vraiment superbe. Alors je ne vois plus que le mouvement de l'escalier, sa couleur, l'odeur. L'odeur du bois, plus les odeurs des gens, ça c'était autre chose. Et là j'avais vraiment l'impression que c'était un endroit où je pouvais emmener quelques personnes rares et choisies pour leur montrer quelque chose qu'ils ne trouveraient pas tout seuls. Et cet escalier de bois entrelacé qui montait très très haut et dont les pieds donnaient dans l'eau complètement est un des lieux secrets où effectivement j'ai emmené quelques personnes choisies parce que c'était beau. Il y avait des marrons, il y avait des jaunes, il y avait des lumières, il y avait des pierres tout à fait rondes dans l'eau, il y avait des reflets, il y avait des petits poissons qui n'étaient pas les mêmes que de l'autre côté dans le loin. Il y avait beaucoup plus d'alevins dans cette partie-là. Il y avait des petits ponts très bas avec des voûtes très basses. Et il y avait énormément de petits lavoirs qui étaient très vivants parce que visiblement les gens les utilisaient, non pas pour laver le linge ou très peu, mais pour étaler le linge ou pour mettre des fleurs. Et ces lavoirs qui flottaient sur l'eau, j'aime.
Les arbres sont tous légèrement penchés et moussus dans cette partie de la forêt. Même leurs troncs sont verts. « Je déteste le vert !» déclare Sabine Baffret, qui est une jeune fille originale et qui le sait. Elle dit ça d'un ton de défi en regardant la pelouse verte et les bancs verts sous les arbres verts du lycée en forêt. « Et les parapluies, cet horrible objet !» Elle-même habite une maison sur le Loing, et elle peut directement jeter ses épluchures par la fenêtre de sa cuisine ou cracher les noyaux par la fenêtre de sa chambre. La porte de son jardin donne sans transition sur l'eau de la rivière. Elle est la fille du docteur Baffret, qui va bientôt faire scandale en se promenant main dans la main avec la professeure d'anglais au lieu d'avec sa femme. Au su et au vu de tout le monde, avenue de Gaulle, en face du Paty, devant la sous-préfecture. Il n'est déjà pas bien vu parce que c'est un homéopathe. C'est bien suspect. Et en plus, il est acupuncteur et ostéopathe. Un genre de rebouteux, voyez. Mais il a quand même de plus en plus de clients. Il me fait mettre toute nue, me regarde d'un œil sévère et intense. Il dit aussitôt à ma mère, c'est une fluorique. Il examine furtivement l'intérieur de ma main en faisant semblant de s'intéresser à mes ongles et me regarde avec l'air de quelqu'un gêné par son indiscrétion qui a vu que je vais mourir assez bientôt. Il abandonne l'inspection pour écrire l'ordonnance. On va lui donner des granules. Et qu'elle mange autant de chocolat qu'elle veut. En l'entendant, je me sens déjà malade. Par tablette entière. D'ici une semaine, ça ira déjà mieux. Mais attention, l'homéopathie accentue les symptômes les 3 premiers jours. Au revoir, madame. Vous connaissez ma petite Sabine? Elle est belle, n'est-ce pas? Et tellement intelligente. Eh bien, au revoir, je vous en prie, après vous. Ma mère, c'est un grand docteur. Il a tout de suite vu que tu étais une fluorique. Une semaine plus tard, je suis guérie. Je croque une tablette de chocolat noir sans aucun malaise. Pas mal, non? Pauvre docteur Baffret, ce n'est pas pour lui faire de la publicité. Cet homme surdoué, bachelier à 16 ans, disciple de Gurdjieff, est mort écrasé par une vache qui passait de nuit sur une route et a roulé sur son capot. Il venait juste de retourner chez sa femme après avoir longtemps habité le quartier neuf, là-bas, à l'orée de la forêt. Mais Sabine, qui l'avait attendu toute son adolescence, m'avait dit « c'est trop tard ».
Oui, il y avait quelque chose qui me frappait beaucoup, c'est que tu allais tout le temps faire de la gymnastique corrective chez Monsieur Roth.
Aïe, 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 séance de torture chez Monsieur Roth. Oui, c'est vrai, j'y allais au moins 3 voire 4 fois par semaine. Et j'y allais parce que j'avais le droit d'aller à la danse avec les petits enfants normaux et les petites filles normales et leurs jolis tutus roses, à condition d'avoir fait effectivement mes 4 heures de poulies et de choses de ce genre. C'était assez pénible, une bonne discipline. C'est surtout l'odeur qui reste, l'odeur de sueur de ces gymnastes. Puis il y a quand même un souvenir. J'avais 10 ans ou 11 ans. Il parlait de mon père tout à l'heure. Et mon père était venu chez Monsieur Roth. J'étais debout sur un tabouret. Ils étaient en train de mesurer mon dos s'était amélioré. Et mon père a dit, elle est bien faite, n'est-ce pas? Ce serait une jolie femme. Et à la fois, donc, chez Monsieur Roth, c'était un endroit très très pénible, mais c'est aussi l'endroit où j'ai pris conscience qu'un jour je serais femme et je serais une jolie femme et que j'étais vraiment bien faite. Alors en cela, les centimètres des jambes qui n'étaient pas assez grandes, tout ça faisait un tout et je me pliais vraiment sans trop de problèmes à cette ingrate discipline des poulies et des heures passées à tirer, à pousser et à suer, voilà.
Ça sent bon, tandis que nous pédalons dans la rue du Chêne Rabier, Geneviève et moi, le long des fossés herbeux de la voie ferrée, en ce mois de juin. Qu'est-ce que tu vas faire après ? Oh, c'est vrai, après. Bientôt le bac, et puis ensuite. Tout ça, c'est fini. Bientôt libre. J'ai comme un vertige sur mon vélo. Tout ce grand rien délicieux devant moi, auquel j'ai droit si j'ai le bac. Je n'en sais rien. Geneviève, excitée et soucieuse en même temps. Moi non plus. Et moi, au diapason de cette belle fin d'après-midi. Ça ne fait rien, ce qui est sûr, c'est qu'on va s'en aller. Geneviève, ça fait bizarre quand même, penser que c'est fini. C'est vrai que ça fait bizarre. Tout à coup, savoir qu'on y est enfin arrivé au bout de l'école, qu'on passe bientôt dans le no man's land du temps. Le temps à nous, celui où tout peut encore arriver.
Nous pédalons en silence. Nous réalisons que nous allons nous en aller. Nous partirons. Nous n'irons pas à Orléans, ni à Tours. Ça ne nous avancerait pas plus. Nous ne savons pas encore ce que nous ferons. Une seule chose est sûre, nous irons à Paris. Nous quitterons et nous fuirons presque Montargis. Car la ville nous parlait de la mort. Et ça, nous ne voulions pas l'entendre. Avant nous, tout le monde mourrait. Mais nous, non, nous ne mourrons pas. Car les parents de l'après-guerre élevaient leurs enfants dans l'irréalité, la fuite en avant, en dehors des problèmes d'argent et de mort. Nous quitterions Montargis et ses vestiges, qui tentaient une dernière fois de nous attirer dans le gouffre du temps. Nous irions à Paris, la ville éternelle, qui ne parle que de l'esprit. Notre génération était une génération bénie, élevée dans du coton.
Cette accusation d'une maîtresse dans les classes primaires m'avait révoltée comme une grossière erreur. En effet, pas de coton chez moi, pas de dorlotement. Mais peut-être avait-elle voulu dire tout cela. Et malgré les démentis cruels de la vie, en dépit de certains des nôtres maintenant sous la terre, nous resterions incapables de nous réveiller vraiment. Nous continuerions, comme on dit, à planer. Même lorsque nous aurions fini de fumer du haschich ou de philosopher pour le plaisir de remodeler le monde, de l'éclairer de tous côtés à notre idée pour l'améliorer comme une maison. Car nous habitions le monde comme une vaste maison que nous ne finirions jamais d'explorer. De même qu'il y aurait toujours des livres qu'on n'aurait pas lus, des films qu'on n'aurait pas encore vus. Et c'était bon de le savoir qu'il y avait encore et encore abondance d'avenir au nom duquel nous rejetions Montargis. Et d'un autre côté, nous lui garderions une certaine tendresse, une reconnaissance de s'être ainsi transformée en château de la Belle au bois dormant, pour nous permettre cette rêverie, qui est sans doute le don essentiel, fécond, vital, de cette génération née autour des années 50. Nos futurs étaient la génération suivante que nous regardions comme des petits crétins, des faibles d'esprit, qui s'étaient laissés voler comme des bleus les manettes de l'imagination, et donc du sacro-saint humour et de la générosité, par les monstres grimaçants de la bombe atomique et du chômage agités par des vieillards que notre insouciance continuait d'exaspérer. Mais il était trop tard pour nous demander le paiement de cette éducation.
Et quand beaucoup plus tard, nous apprendrions ce que nous pressentions, c'est-à-dire que Pithiviers ne signifiait pas seulement d'innocents gâteaux à la pâte d'amande, le jour des rois, ou Beaune-la-Rolande, un simple patelin de pensionnaire, que l'insignifiant à Milly et ses élevages de poules en batterie avaient un jour dressé sur son sol de Gâtine
des clôtures et déroulé des barbelés électrifiés autour de milliers de gitans en attendant de les fournir avec empressement à Hitler pour qu'il les dissèque, qu'il les cuise. Quand nous connaîtrions l'infamie, ce que recouvrait le silence de notre enfance, nous nous insurgerions une bonne fois contre ce silence. Nous voudrions tout savoir et nous chercherions en même temps à comprendre. À la grande surprise de nos parents, qui n'y pensaient jamais. Mais le secret de Montargis, du Gâtinais, de la France de Vichy, même s'il ruinait l'évidence des valeurs humanistes, contribuerait à renforcer en nous la certitude qu'il y avait plus que jamais urgence à vivre positivement pour ne jamais, jamais céder aux ordres morbides. Le morbide ne nous avait jamais tentés. Montargis ne nous tentait pas, et nous l'abandonnerions sans regret, glauque et endormi sur ses moches secrets.
Plus tard, beaucoup plus tard, après avoir parcouru la terre, nous le retrouverions pareil. Étonné seulement qu'il soit si petit, rétréci, miniaturisé, à l'échelle de ces poupées que nous laissions dormir au fond des tiroirs sans avoir envie de leur donner vie. Car alors commenceraient les tracas inutiles. Elles nous auraient absorbés de leurs besoins insipides.
Cette vie, nous la gardions pour des personnes de chair et d'os, dans des villes qui nous parleraient d'un présent disponible, prêt à payer enfin nos dettes.
Adieu, Montargis.
Adieu, Montargis.
Qui nous a contre lui ainsi façonné.
Qui nous a et contre merci. Lui ainsi façonné. Et merci. Si j'y Montargis, au fond de nos coffres à jouer.
Tant de choses et pourtant rien. 42 rue Lazare Carnot, de Catherine de la Clergerie, lu par Marie-Christine Robert. Avec les voix de Catherine de la Clergerie, Geneviève Hutin, Nicole Goudou, Jacqueline Delaveau et Sabine Baffret. Texte de Geneviève Hutin, extrait de 19 rue des Basses Varennes. Bernard Charron, Claude Niort, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau.
C'était « Tant de choses et pourtant rien », 42 rue Lazare Carnot, de Catherine de la Clergerie, diffusée la première fois, le 28 mars 1994, sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.